Cette campagne, bonjour, c'est un carnet un peu spécial qui prend le large, non pas pour vanter V-A-N, les beautés des mers et des océans, mais pour constater que la pollution plastique prend des proportions catastrophiques. Les chiffres sont affolants. Chaque minute, 80-120 tonnes de déchets finissent en mer et une majorité de ces déchets est en matière plastique. Selon des projections théoriques, le plastique a une durée de vie d'une moyenne de 600 ans, ce qui laisse imaginer la permanence de ces continents de plastique que les scientifiques appellent les gyres. Ces gyres ou accumulations massives de plastique sont le résultat de courants de surface des océans qui regroupent les déchets dans certaines zones, dans le Pacifique, dans l'Atlantique et dans l'océan Indien. Le plus grand gyre se situe dans le Pacifique Nord. Il est 3 fois plus grand que la superficie de la France. Les projets de nettoyage, de récupération, de recyclage de ces déchets sont nombreux mais demeurent modestes à l'échelle des dégâts constatés. Il en faudrait des centaines, voire des milliers. Parmi les grandes solutions avancées, un bateau dévoreur de plastique est en construction en France et on le doit au navigateur Yvan Bourgnon.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Yvan Bourgnon, bonjour.
Bonjour.
On n'a pas l'habitude dans les carnets de campagne de parler des mers et des océans avec un grand navigateur, mais on le fait aujourd'hui parce qu'il y a une alerte depuis plusieurs années, mais qui prend vraiment une urgence pour employer un terme très souvent utilisé à l'égard de l'écologie et d'une transition écologique, c'est que on découvre un 7e continent aujourd'hui qui est un continent de plastique dans les mers et les océans, partout dans le monde.
Partout dans le monde, puis il faut pas oublier justement que toutes ces bouteilles d'eau, ces déchets plastiques qu'on retrouve dans toute la surface des océans proviennent pour la plupart du temps des campagnes, hein, parce que ce sont vraiment les rivières, les ruisseaux, les fleuves qui sont les grands véhicules de plastique. Donc voilà, les petits plastiques qu'on jette au milieu du Massif central, ils finissent forcément un jour à la mer. Et voilà, il faut s'en préoccuper, et justement avec l'idée d'aller aussi stopper à la source un peu le mauvais réflexe du pollueur qui jette son déchet dans la nature.
À force de tourner autour du monde, dans les mers et océans, Yvan, vous avez vu l'accumulation s'accroître de plastique?
Bah clairement, moi c'est simple, hein. Il y a 33 ans, je fais un premier tour du monde avec mes parents pendant 3-4 ans, et là, pas de pollution, mais vraiment rien, pas un sac plastique en vue. 33 ans après, je refais le même tour du monde, sur le même trajet, et là, dans l'océan Indien, vraiment une vision d'horreur des plastiques à la surface de l'océan. Quand tu sais qu'il y a 99% des plastiques qui finissent par couler, tu te dis, oula, là, ce que je vois, ce n'est qu'une petite partie de la face immergée du problème. Donc effectivement, c'est pas sur nos côtes françaises où il y a encore le plus de dégâts, même si sur en Méditerranée, on s'en préoccupe. Mais effectivement, là-bas, il y a des pays comme voilà les continents d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, etc., où c'est vraiment des nappes de plastique. Alors, c'est pas forcément au milieu des océans qu'on les voit le plus, c'est plutôt près des côtes, près des grands fleuves. Mais là, il y a vraiment une solution possible en allant imaginer une récolte des déchets plastiques en mer.
Il y a plusieurs projets actuellement sur la table de travail et de réflexion pour essayer de réduire cette masse inimaginable. Il faut savoir que chaque minute dans le monde, 120 tonnes de déchets finissent en mer, une grande partie en plastique. On parle de 5 milliards de particules de plastique qui naviguent et qui parfois d'ailleurs attaquent aussi les fonds des océans marins avec tout ce que ça implique sur la faune évidemment et l'équilibre écologique des mers et des océans. Donc votre projet, c'est Manta, c'est un truc complètement dingue, c'est un bateau qui fait la taille d'un terrain de football et qui est né dans votre tête en 2016.
Bah, c'est né, l'idée est née en 2016, mais après, effectivement, j'ai une formidable équipe avec ce Sea Cleaner qui a travaillé dur pendant un an et demi pour arriver à un résultat, après, voilà, quelques milliers d'heures de réflexion, où on s'est dit, il faut partir d'une page blanche et il faut essayer de réfléchir à un ramassage spectaculaire de ces déchets. Est-ce que c'est un bateau de 250 mètres? Est-ce qu'il faut y aller en consommant du gasoil? Est-ce que, combien de tonnes on va pouvoir ramasser exactement? Qu'est-ce qu'on va faire des déchets plastiques qu'on va trouver en mer? On a réfléchi vraiment à toutes ces problématiques pendant 2 ans. Et on est arrivé à une solution qui est assez bonne, qui est un bateau quand même à taille humaine, même s'il est grand, il fait 70 mètres de long, il rentre quand même dans les ports, il rentre dans les écluses, il peut passer le canal de Panama. Et malgré tout, il est capable de faire un ramassage conséquent, puisqu'on parle de 10 000 tonnes de plastique ramassées par an, par bateau. Si on avait 1000 bateaux comme ça, ça voudrait dire qu'on pourrait ramasser la totalité des déchets plastiques. On sait, nous, que c'est pas possible. On sait, par contre, peut-être qu'une centaine de bateaux permettrait déjà de dépolluer 10% des océans. Et puis au-delà de la collecte de déchets, le projet SeaCleaner, ça va bien au-delà d'un simple collecteur, puisqu'on va profiter du passage de ce bateau dans les pays les plus défavorisés pour aller faire de l'information, pour aller faire de la sensibilisation, de l'éducation. Et puis on sait bien, il faut des projets médiatiques, des projets, des vrais porte-étendards. Et en mettant au service comme ça la technologie, les énergies renouvelables, au service de l'écologie, ben on est capable de frapper fort, on est capable d'arriver à Bali, de bousculer un peu les industriels, les touristes, les politiques sur place, et de leur dire, vous voyez là, on s'est retroussé les manches pendant 15 jours, on s'est bougé le cul, on a ramassé vos déchets plastiques, maintenant on va vous proposer des idées pour les recycler, parce que ce que vous jetez à la mer, ça reste quand même une ressource qui est exploitable et revalorisable.
Mais ça veut dire qu'un mental ne suffira pas.
Non, le premier mental, c'est pour montrer que le premier bateau poubelle fonctionne et montrer et revenir vite avec des chiffres. Mais l'idée, c'est de développer une flotte. Mais c'est pas la seule solution. Il faut développer aussi les autres solutions. Il y a la solution avec Ocean Cleanup de barrières flottantes. Il y a des solutions pour nettoyer dans les ports, pour nettoyer à proximité des côtes. Donc, il faut vraiment cumuler toutes ces belles initiatives pour que on arrive enfin, dans quelques dizaines d'années, à une collecte et à un ramassage qui soit quand même correct. Même si la solution ultime, on le c'est quand même de moins jeter de plastique à la mer. Et ça, j'espère qu'on va aussi y contribuer.
Alors, Yvan, vous avez créé SeaCleaners à la Trinité-sur-Mer. 15 personnes y travaillent actuellement.
Tout à fait, plus toutes les équipes extérieures, le consortium technique, tous les bureaux d'études qui travaillent avec nous, qui œuvrent chaque jour pour réaliser ce bateau. On a encore aujourd'hui 2 années pour mettre au point ce bateau, lancer les appels d'offres, et puis 2 années de construction. Donc en 2022, on pourra avoir le premier Manta à l'eau, et puis en espérant qu'une vingtaine...
Manta à l'eau, c'est bien joué. Hein,
voilà, tout à fait. C'est ma boisson préférée.
En plus.
Donc on peut espérer que dans 20 ans, voilà, il y a déjà une trentaine de bateaux au moins minimum à l'eau, quoi.
Yvan Bourgnon a invité des carnets de campagne pour ce projet qui va devenir dans très peu de temps une réalité avec l'association The SeaCleaners et cette énorme valeur de plastique sur les océans, Manta, qui va fonctionner comment, Yvan ?
Alors, on a vraiment réfléchi écologiquement depuis le début à l'empreinte carbone de ce projet et on s'est dit on va lancer le projet seulement si on est capable d'être au moins à 75% autonome en énergie. Donc, en utilisant évidemment le vent, l'éolien, le solaire. Et c'était pas si simple parce qu'aujourd'hui, il n'existe aucune plateforme flottante dans le monde qui est autonome comme ça en énergie. S'il y a des démonstrateurs, il y a des bateaux qui vont montrer la technologie des panneaux solaires, d'autres des éoliens, d'autres de l'hydrogène. Mais en tout cas, en bateau de travail qui va prendre 36 personnes à bord, ça n'existe pas. Et on a vraiment trouvé la meilleure combinaison possible entre toutes ces énergies renouvelables grâce à cette plateforme qui est énorme, qui fait 2000 mètres carrés. On produit vraiment quand même jusqu'à 2 mégawatts d'électricité à bord. Et donc, du coup, on est vraiment en autonomie pour aller ramasser ces déchets. Et si pendant un jour ou deux par mois, on est obligé d'attendre le soleil, le vent, pour que l'énergie revienne, ben, on attendra. On n'est pas là pour surpolluer les océans. Et puis après, ben, évidemment, cette plateforme, elle est intéressante parce qu'on va revenir à terre. On va pouvoir vraiment communiquer correctement avec les populations. On va pouvoir leur mettre à disposition des pyrolyses. Nous-mêmes, déjà à bord, on sera équipés de cette pyrolyse parce qu'on le sait bien, plus de la moitié des déchets plastiques retrouvés à la mer ne sont pas recyclables.
Mais donc c'est un four qui permet de fondre les déchets plastiques qui ne sont pas recyclables.
Tout à fait. Donc les ramener à terre pour qu'ils soient de toute façon incinérés ou enfouis sous terre, c'est ridicule. Autant les brûler à bord, fabriquer du carburant, faire en sorte que ça double ou ça triple la capacité d'autonomie du bateau. Et puis après, à terre, quand on arrive à Bali, bah évidemment, là-bas, il n'y a pas d'unité de recyclage du plastique qui est encore opérationnelle. Par contre, on peut faire en sorte de financer des pyrolyses et en leur disant, maintenant, vous arrêtez vos conneries, vous ramenez vos plastiques à la pyrolyse et derrière, vous allez récupérer du gasoil pour vos machines agricoles, pour vos véhicules. Et là, ils vont vite comprendre qu'en gagnant $100 par mois, ils ont un intérêt certain à ramener leur plastique.
Vous avez bouclé votre budget.
Alors non, parce qu'on est tout au début de notre projet, même si on travaille dur depuis 2 ans, il faut nous laisser le temps de grandir. Mais on a réuni déjà 25% du budget, ce qui est déjà colossal. Voilà, on est déjà à 30 mécènes, 7500 donateurs, c'est pas rien. Sur les 2 prochaines années, on perdra pas de temps parce qu'on est dans les études et qu'on a déjà l'argent pour le financer. Donc la construction du bateau, le premier bateau, va forcément arriver. La question c'est plus après, comment nous on va pouvoir contribuer fortement à faire en sorte que ça se développe. Parce qu'un bateau, c'est bien, mais il en faut 100. Et donc, du coup, ça va être un vrai challenge de développer un réseau international pour que chaque pays puisse s'approprier ce projet. Et le fait d'être en open data sur toutes les données qu'on va créer avec ce bateau, ben, on peut vraiment espérer que ça crée des vraies économies d'échelle, des vraies économies de temps, et que ça permette à d'autres investisseurs de s'investir là-dedans. Il ne faut pas oublier que notre coût de collecte des déchets à bord du bateau, aujourd'hui, il est à 300 euros la tonne. Les chiffres donnés par l'ADEME pour collecter les déchets des poubelles jaunes en France, c'est 150 euros la tonne. Donc aujourd'hui, on est sur un coût de collecte qui est seulement deux fois supérieur aux déchets qu'on ramasse devant chez nous tous les jours. Alors, quand on sait les dégâts que ça fait sur les oiseaux, les coraux, la faune, le réchauffement climatique, on se dit, mais comment on peut ne pas imaginer dépenser juste deux fois plus pour aller chercher ces déchets en mer? Dans ce cas-là, si on ne va pas chercher les déchets en mer, arrêtons de ramasser les déchets à terre aussi.
Et Yvan Bourgnon, seul on avance plus vite, selon le fameux adage, à plusieurs on va plus loin. Est-ce que dans votre milieu des grands navigateurs, vous êtes soutenu, il y a une équipe qui se constitue?
Alors, on n'est pas forcément aujourd'hui avec l'empreinte de grands noms de la voile qui nous ont rejoints, même s'il y a des gens comme Bertrand de Broc, comme d'autres comme ça, qui ont déjà donné leur soutien, Francis Joyon et d'autres. Moi, je souhaite surtout que, voilà, eux fassent aussi leur boulot chacun de leur côté. Je sais que Thomas Coville travaille dur avec Race for Water. Après, c'est une question d'organisation aussi. Moi, j'ai fait le choix de renoncer à une partie de ma carrière sportive pour pouvoir donner du temps à la planète. Voilà, et c'est pas toujours facile à faire. Il y a des gens qui ont des contrats, qui ont des carrières sportives intenses. Et voilà, mais j'espère vraiment que voilà, ça va se mobiliser de plus en plus. Il y a déjà des choses enclenché, c'est parfait, quoi.
Avec l'espoir que les pouvoirs publics réagissent davantage.
Ça, c'est plus effectivement une inquiétude. Leur problématique, c'est déjà d'enseigner, éduquer, sensibiliser, trier mieux les déchets. On voit bien à Paris, on n'arrive même pas à trier les déchets correctement. Donc déjà, sur ces dossiers-là, ils sont déjà largués complets, si je peux me permettre. Du coup, aller, eux, à la fin de la chaîne, collecter les déchets, ça leur paraît tellement loin des capacités qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est vraiment que des ONG, des privés comme ça, qui peuvent lancer ces initiatives. Et tant mieux si après, derrière, ces initiatives sont reprises par les États, etc. Mais à un moment donné, de toute façon, ils n'auront plus le choix. Ils seront obligés de trouver des solutions financières pour pouvoir soutenir ce genre d'action.
On va vous soutenir. TheSeaCleaners.org ou .fr, il y a deux adresses. Vous allez retrouver le lien à nos pages d'émission. Et je vous souhaite donc une bonne menthe à l'eau.
Eh bien, c'est gentil. Merci beaucoup pour votre soutien. Au plaisir.
Au plaisir. Je signale qu'Yvan Bourgnon sera l'invité de Philippe Collin et de L'Œil du Tigre sur France Inter dimanche à 18h10 à l'occasion de la Route du Rhum 2018 qui partira le même jour de Saint-Malo.